Partie 3. Suivre Jésus. Chapitre 8. Qu'est-ce que la vie de disciple? L'Évangile se partage afin d'être transformateur. Quiconque a embrassé l'Évangile est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. À quoi cela ressemble-t-il? Vous vous souvenez peut-être de la réponse à cette question. Plus tôt, j'ai dit qu'un disciple était un partisan, plus spécifiquement, un partisan de Jésus. J'ai défini « suivre » comme imiter ou imager Jésus. Être semblable à l'image de son Fils est notre destin ultime. Romains 8, verset 29. 2 Corinthiens 3, verset 18. Colossiens 3, verset 10. Notre motif d'imiter Jésus n'est pas de faire en sorte que Dieu nous aime pour qu'il nous laisse alors entrer au ciel. Dieu aimait déjà chacun de nous lorsque nous étions encore des pécheurs, Romains 5, verset 8, et que nous étions ennemis, Romains 5, verset 10. Nous allons au ciel, nous faisons partie de la famille de Dieu, lorsque nous croyons en l'Évangile. Par nous-mêmes, nous sommes perdus et nous avons besoin d'un Sauveur. Luc 19, verset 10. Aliénés de Dieu. Éphésiens 4, verset 18. Quand cela était notre situation, Dieu nous a aimés. Il n'a pas attendu jusqu'à ce que nous travaillions sur notre comportement pour nous aimer. Notre motif d'imiter Jésus n'est pas non plus de faire en sorte que Dieu continue à nous aimer pour que nous soyons sauvés à la fin. Ce qui ne peut être atteint par la performance ne peut pas être perdu par la performance. Le salut n'a rien à voir avec notre propre valeur ou notre propre mérite. Cela a tout à voir avec ce que quelqu'un, Jésus, a fait pour nous. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Nous ne pouvons pas nous créditer le salut. Jésus reçoit tout le crédit. Pensez critiquement sur la vie de disciple. Nous devons penser prudemment sur la façon que tout ceci s'applique à la vie de disciple. À cause du piège de la performance dont j'ai parlé plus tôt, nous devons bien comprendre que le salut et la vie de disciple ne sont pas la même chose. Inconsciemment, plusieurs croyants commencent à ajouter leurs propres œuvres ou leurs propres performances à l'Évangile à cause de la culpabilité de leurs péchés. Le résultat est un esclavage spirituel et non la vie abondante que Jésus veut que nous ayons. Jean 10, verset 10. 2 Corinthiens 1, verset 5. Éphésiens 3, verset 20. Le salut est un cadeau que Dieu nous donne lorsque nous croyons en l'Évangile. Il est immérité. Néanmoins, Dieu nous l'offre malgré notre péché et notre hostilité envers lui. La vie de disciple est quelque chose que nous faisons qui est le résultat d'avoir cru en l'Évangile. Nous imitons Jésus pour montrer notre amour pour lui et pour Dieu. Jésus était l'imageur ultime de Dieu, alors nous voulons vivre de la même manière. Il y a beaucoup de raisons de vivre comme Jésus, de vivre une vie sainte. Gagner l'amour de Dieu n'est pas l'un d'eux. Le salut ne nous coûte rien. C'est gratuit pour tous ceux qui croient en l'Évangile. La vie de disciple, par contre, nous coûte quelque chose. Suivre Jésus n'est souvent pas facile. Être disciple nécessite de faire des choix, aimer et honorer Dieu, traiter les gens pour ce qu'ils sont, des collègues imageurs de Dieu, qu'il aime et qu'il veut apporter à sa famille par le biais de l'Évangile. Pensez à la propre vie de Jésus. Ce n'était pas facile. Comme le dit la Bible, Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre 2, verset 21. Jésus a vécu une vie de sacrifice. Il a mis Dieu en premier, suivi de son prochain, tout le reste du monde. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement, et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, versets 36 à 40. Jésus a vécu de cette façon, non pas pour que Dieu l'aime ou soit heureux avec lui. Dieu aimait déjà Jésus, bien avant qu'il ne vienne et ne fasse des œuvres performées pour accomplir l'Alliance. Il aimait Jésus avant la fondation du monde. Jean 17, verset 24. Suivre Jésus peut être difficile, puisqu'aucun croyant n'est comme Jésus quand il croit en tout premier lieu, et puisqu'il est difficile de constamment vivre comme Jésus, chaque disciple doit avoir un changement de cœur, ce que la Bible appelle la repentance à propos de son comportement. Je sais que moi, je l'ai fait. Il y avait des choses que je devais arrêter de faire et des choses que je devais commencer à faire. Mais rien de tout cela ne devait faire en sorte que Dieu m'aime. Il m'aimait déjà. Jésus a fait ce qu'il a fait parce qu'il aimait Dieu. Alors nous aussi. Jésus a vécu d'une certaine manière pour aider les autres à croire en lui et en son plan. Alors nous aussi. Jésus savait pourquoi il était sur la terre. Comment il allait mourir une façon atroce à notre place. Mais il a aussi fait confiance au plan et au pouvoir de Dieu. Il allait ressusciter des morts et il allait être de nouveau avec son Père. Nous devons avoir la même perspective éternelle. Ce monde n'est pas notre vrai domicile, c'est temporaire. Le prochain est permanent. À cause de ce que Jésus a fait, nous allons hériter de la vie éternelle dans ce monde-là, en laissant celui-ci derrière. Le but de nos vies devrait être de montrer notre loyauté et notre gratitude envers celui qui nous a sauvés et d'aider les autres à entrer dans la famille de Dieu. Et si nous échouons, et si nous péchons, nous allons commettre les deux. Dieu le sait. Il connaît les humains assez bien. Il sait qui nous sommes. Mais il nous aimait déjà avant que nous ayons le moindre intérêt à faire quelque chose pour l'aimer en retour. Il nous a aimés quand nous étions ses ennemis, lorsque nous étions encore des pécheurs. Dieu nous a aimés avant que nous soyons dans sa famille. Pourquoi nous aimerait-il moins ou arrêterait-il de nous aimer maintenant que nous sommes dans sa famille? Quand nous péchons, nous échouons, il nous pardonne. Il veut que nous croyions cela et que nous recommencions à imiter Jésus. Pourquoi vivre comme Jésus? J'ai dit il y a quelques instants qu'il y a beaucoup de raisons de vivre comme Jésus. Mais gagner l'amour de Dieu n'en fait pas partie. Quelles sont ces raisons? Premièrement, le péché est autodestructeur et nuit non seulement à nous, mais à ceux qui nous entourent. Dans ma propre famille étendue, j'ai vu les effets de l'alcoolisme, de la toxicomanie et de l'infidélité. Il est évident que ces choses détruisent des vies. Il devrait également être évident que les choses que le monde, la culture non-croyante, offre pour le plaisir et la satisfaction personnelle sont temporaires et n'ont aucune valeur durable. La culture nous dit de vivre la vie pour satisfaire notre propre bonheur, indépendamment de la misère que nos décisions créent. Elle n'offre aucune perspective éternelle. Elle nous invite à vivre que pour le moment. Il n'y a pas d'appel supérieur. La Bible expose cet état d'esprit pour ce qu'il est. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jean 2, versets 15 à 17. Deuxièmement, et à bien des égards, l'opposé du premier, vivre une vie pieuse bénit les autres. La vérité est que notre façon de vivre et de penser soit bénit les autres ou les maudit. Jésus a servi les gens et a été une bénédiction pour eux. Poursuivre un style de vie motivé par la satisfaction de soi et l'absorption de soi n'accomplit pas grand-chose. Chaque comptoir de supermarché nous offre des exemples de cette réalité. La bénédiction des gens ne reflète pas seulement Jésus, mais elle mène à la réalisation personnelle. Votre vie compte quand elle est mise au service des autres. Troisièmement, une vie pieuse nous permet d'être un témoin cohérent pour l'Évangile. Si les gens regardent nos vies et ne voient aucune distinction avec le monde des non-croyants, et ne voient pas une vie vécue au service des autres, ils ne trouveront pas l'Évangile crédible, ou au moins, ils seront confus. Ils verront nos vies comme une contradiction du message de Jésus. En d'autres mots, les gens s'attendront à ce que nous vivions comme Jésus, la personne que nous disons qui les aime. Ce n'est pas déraisonnable. L'alternative est l'hypocrisie, et personne n'apprécie l'hypocrisie. Vivre une vie pieuse ne s'agit pas de gagner une place au ciel. Il ne s'agit pas de placer Dieu dans notre dette due aux points spirituels que nous avons accumulés. Des passages comme ceux-ci ont un objectif totalement différent. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, versets 1 et 2. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, bon, agréable et parfait. 2 Timothée 2, versets 19 à 21. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, un même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens 2, versets 1 à 8. Ces passages nous donnent une idée de la façon dont nous devrions vivre, mais nous n'avons toujours pas abordé les points spécifiques sur la vie de disciple. Comment vit un disciple? Que fait un disciple? Heureusement, Jésus et ses premiers disciples, les premiers chrétiens, l'ont bien communiqué. Jésus n'a jamais dit à ses partisans de faire quelque chose qu'il ne faisait pas lui-même, et il leur a montré comment le faire. À leur tour, ils ont suivi son exemple et ils ont enseigné aux autres à faire de même, au tout début du commencement de l'Église.